quotidiennement, de tranche en tranche.
C'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est d'avoir des tranches beaucoup plus grandes, beaucoup plus graduelles, et laisser les taux élevés sur des montants beaucoup plus importants. Ordre d'idée, en France, je pense que le taux marginal qui est de 42 de mémoire est aux alentours de 160 000 euros. Donc vous voyez, c'est une progressivité tout autre.
Ce qu'on entend par taux marginal, c'est le taux le plus élevé auquel est imposé un contribuable. Donc, si on résume, là où Étienne de Calataille, Philippe de Feit et Sabrina Skerna sont d'accord, c'est pour aller vers une plus grande progressivité de l'impôt. Ils ne se sont pas mis d'accord par contre pour savoir s'il fallait demain taxer les toutous hauts revenus au-delà de 50%, comme certains le proposent. Pas de consensus entre eux et elles sur ce point. Par contre, un consensus très net sur la prise en compte de la réalité des plus bas revenus.
On va donner un exemple très clair. Une maman seule avec deux enfants, celle-là un petit salaire, n'a pas aujourd'hui, même en enrôlement, l'occasion d'activer toutes les réductions fiscales pour enfants en charge. Si vous transformez les réductions fiscales pour enfants en charge en crédit d'impôt immédiatement et intégralement remboursable, cette jeune maman bénéficie de la totalité de ces réductions fiscales, mais elle en bénéficie tout de suite. Il est inadmissible aujourd'hui, je pense que c'est une partie du problème, que des petits revenus avancent de l'argent au trésor alors qu'ils sont eux-mêmes en difficulté. C'est inacceptable.
Alors là, ça vaut la peine pour les béotiens en fiscalité comme moi de s'arrêter 3 secondes sur quelques termes un peu techniques qui risquent de revenir encore. Quand on parle de déduction fiscale, on parle d'une somme qu'on soustrait à vos revenus et sur laquelle donc l'impôt ne s'applique pas. Quand on parle de réduction d'impôt, là on parle d'une somme qu'on soustrait à l'impôt que vous devez payer. Mais parfois, quand vous payez assez peu d'impôts, parce que vous n'avez pas beaucoup de revenus, il se peut qu'il n'y ait pas assez d'impôts à soustraire pour vous faire bénéficier des avantages fiscaux auxquels vous avez pourtant droit. Dans le cas d'une réduction d'impôt, tant pis, si vous êtes à zéro, vous êtes à zéro, dommage pour ce que vous auriez pu économiser en plus. Par contre, dans le cadre du mécanisme du crédit d'impôt, si la réduction à laquelle vous avez droit va au-delà de l'impôt calculé, donc qu'on passe sous zéro en quelque sorte, eh bien l'administration fiscale vous rembourse la différence. Nos 3 experts proposent donc ici que pour les plus bas revenus, on procède plutôt par crédit d'impôt et par crédit d'impôt immédiat, c'est-à-dire sans attendre la déclaration fiscale de l'année suivante. Voilà donc un premier point important qui concerne l'impôt sur les revenus du travail. Mais retournons écouter les discussions, toujours très conviviales, de nos 3 invités sur d'autres enjeux majeurs de notre fiscalité.
Mais bêtement, quand tu reçois ton avertissement extrait drôle, il faut déjà être malin pour comprendre ta quotité exemptée. Alors moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu un AER, je me dis, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? On calcule. Allez.
Et puis, je dis, bah, la manière dont on informe les gens, on te reprend sur ta feuille que tes codes.
Tout à fait.
Donc, ouais. Déjà, aller regarder ce à quoi correspond
tes codes. Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas
d'erreur. Déjà, je trouve ça, c'est pas correct. J'aimerais qu'on me donne, ben voilà, vos revenus professionnels, c'est autant, vous avez droit à autant pour tel... Mais rien que le chiffre, et, enfin le code et le montant correspondant, je trouve que ça manque de lisibilité.
Voilà de nouveau un point de convergence très net entre nos interlocuteurs et interlocutrices. Il faut impérativement améliorer la lisibilité du système.
En fait, aujourd'hui, je ne sais pas comment fait le citoyen quand il reçoit son avertissement extrait drôle pour comprendre ce que c'est, en fait. On a une communication sur des codes, donc vous avez rempli votre déclaration. Quand vous recevez l'avertissement extrait drôle, c'est des codes. Il faut comprendre que quand on calcule l'impôt, en fait, on taxe la quotité exemptée pour après la détaxer. Enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de comprendre. Et ça, je trouve que c'est... Nous trouvions que c'était anormal que la communication ne soit pas beaucoup plus fluide. On a une dureté souvent entre l'administration qui fait peur et le citoyen, et on a une absence de communication de lisibilité. Donc si on pouvait avoir des communications très simples en disant « Cher monsieur, vous avez déclaré un revenu d'autant, voilà comment va se calculer votre impôt, voilà pourquoi vous devez récupérer, vous devez payer autant », ça c'est quelque chose qui nous semble primordial et qui au lieu d'aller vers ce sens-là va en sens inverse. Il est devenu quasiment impossible de rentrer en contact avec l'administration fiscale, donc il y a une culture de la communication qui manque et qui crée encore de nouveau, je pense, un manque d'adhérence.
Mais de nouveau, tout est dans tout, un système plus simple est plus communicable. Si on dit demain aux contribuables, au lieu de parler de quotité exonérée d'impôt, et que si vous avez un enfant, vous avez droit à une quotité exonérée d'impôt supplémentaire. Si on disait un enfant vous donne droit à 1 000 euros de réduction fiscale, ben c'est immédiatement lisible. Et c'est exactement la même chose. À ce stade-ci, on n'a encore rien modifié. Mais juste, on parle avec des termes et avec des mécaniques qui sont compréhensibles.
Juste pour vous dire, donc voilà, l'idée.
45.
Bon, c'est parfait. Donc, il nous reste 3 quarts d'heure avant que Étienne de Canada soit parti. C'était juste pour vous dire.
On a un accord. À chaque fois,
autre gros morceau sur la table, entre les croissants et les pains au chocolat, savoir quel sort réservé à la fiscalité sur le patrimoine, que ce soit le patrimoine mobilier ou le patrimoine immobilier. Une question s'invite forcément dans les échanges, faut-il ou non globaliser les revenus, c'est-à-dire mettre dans un même pot les revenus du travail et du capital pour pouvoir les taxer au même taux et avec la même progressivité.
La difficulté, c'est quoi ? C'est est-ce que l'on va dès lors penser que tout revenu doit être taxé, que la globalisation doit être complète et intégrale ?
Forcément, quand on parle globalisation des revenus, la question de la vie privée s'invite aussi dans les échanges.
C'est un point délicat. On ne veut pas vivre dans une société Big Brother où l'État sait tout sur tout le monde à tout instant. Mais d'un autre côté, pour pouvoir mener une politique juste, il faut pouvoir connaître la capacité de contributif de tout un chacun. Est-ce que ça passe par l'abandon du fait que l'État ne sache pas quels sont mes revenus du capital ?
Mais il les connaît d'une certaine manière.
Aujourd'hui, pas. Hein. Mon précompte est prélevé à la source. Il ne sait pas.
Oui, là-dessus,
finalement, nos trois spécialistes préféreront ne pas aller vers l'idée de la globalisation, en tout cas pas maintenant, pas de consensus là-dessus entre eux, mais ils sont tous les trois tout à fait d'accord, par contre, pour harmoniser la taxation de tous les revenus de la propriété, que ce soit propriété d'actions, d'obligations, de biens immobiliers, que cette propriété rapporte des dividendes, des plus-values, des loyers ou quelques revenus que ce soit. L'idée pour nos spécialistes serait de taxer le tout au même taux.
Taxer tous les revenus de la propriété avec un taux clair, net, perçu immédiatement, rien que ça, je pense, pourrait rapporter de quoi payer un véritable tax shift et un véritable allègement de l'impôt sur le revenu.
Ça n'a pas de sens d'avoir des revenus qui sont moins taxés ou pas taxés que d'autres en réalité. Si on veut arriver vers cette progressivité, il faut par hypothèse aller taxer autre chose. Mais la vraie question, ce que l'avocat va dire, c'est que la garantie, c'est qu'il y ait ce véritable tax shift. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que finalement, la fiscalité du patrimoine existe en Belgique. Quoi qu'on en dise, il y a une véritable imposition du patrimoine, que ce soit par l'impôt sur les revenus immobiliers, qui est quand même de 30% sur tous les intérêts et les dividendes. Les plus-values sont effectivement exonérées. On dit qu'on ne taxe pas les loyers. C'est vrai, c'est pas vrai. On taxe les loyers si on donne à des personnes qui affectent à leur activité professionnelle, mais on taxe quand même un revenu cadastral indexé, etc. Donc, ça ne représente évidemment pas tous les loyers, mais il y a aussi toutes les taxes indirectes. Toutes les taxes sur les transactions boursières, toutes les taxes sur les droits d'enregistrement. Donc, s'il faut revoir cette fiscalité, il faut tenir compte de la fiscalité dans son ensemble. Et donc, il faut aussi mettre à la table les régions qui devront aussi revoir leurs droits d'enregistrement. Donc, il faut avoir cette honnêteté-là aussi de taxer le patrimoine et de le taxer peut-être à l'impôt sur les revenus. Mais rappelons que l'impôt sur les revenus, c'est fédéral en partie, que les droits d'enregistrement, c'est régional tout à fait. Et donc, de nouveau, la question de comment le faire.
Donc, même sans aller jusqu'à une globalisation des revenus, il y a déjà, selon les trois experts présents, de quoi aller beaucoup plus loin en matière d'harmonisation et d'équité, afin d'éviter aussi que des personnes avec des patrimoines parfois très conséquents puissent encore bénéficier d'allocations sociales simplement parce qu'elles n'ont pas ou peu de revenus du travail et que c'est ça qui sert de critère pour l'octroi de certaines allocations. Pour éviter cela, il conviendrait, selon Philippe Defeyt, si pas de globaliser l'impôt sur le revenu, d'au moins globaliser l'information sur les revenus.
Si pour toute une série d'aides, pour toute une série de contributions, on globalisait les revenus, même si on continue à les taxer de manière séparée, on aurait enfin une vraie vision des revenus et de la distribution des revenus en Belgique qui nous manque cruellement aujourd'hui. Parce que, en fait, la collectivité, l'État, a toutes les informations. Jamais quelqu'un ne globalise les informations. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes un des pays où on connaît le moins bien la distribution des revenus.
On a réformé le système fiscal.
Deux, trois petits boulots à refaire, mais c'est fait.
Il faut convoquer le Parlement cet
après-midi. On a donc déjà parlé fiscalité sur le patrimoine, fiscalité sur les revenus du travail, et nos trois experts ont maintenant entamé un chapitre sur l'impôt des sociétés.
L'impôt des sociétés ne devrait pas exister, mais tu disais à très juste titre, ben oui, mais il y a une réalité. Ben oui, le monde est de plus en plus mondialisé, façon de le dire.
Avec des idées pour le moins créatives.
Ça c'est révolutionnaire.
Voilà. Comment expliquer ça?
Ah, ça devient très long.
Le grand public, le monde idéal, il n'y a pas d'impôt des sociétés, mais évidemment, il faut expliquer en même temps qu'il y a le reste qui suit, mais c'est difficilement expliqué.
Et c'est Sabrina Scarna qui nous explique l'idée révolutionnaire sortie de leur discussion.
On a trouvé une idée totalement disruptive. On supprime l'impôt des sociétés totalement, qui d'ailleurs, on était tous d'accord pour dire intellectuellement qu'il n'a pas lieu d'être en réalité. Tant que l'argent est dans la société, il ne devrait pas générer d'impôt, et ce n'est qu'à sa sortie qu'il devrait générer une imposition dans le chef du bénéficiaire. Et pourquoi il existe? Parce que le bénéficiaire, il n'est pas nécessairement là où est la société. Et donc finalement, l'État capte, l'État de résidence de l'entreprise capte finalement une partie du revenu, ne sachant pas si un jour elle aura droit à la recette dans le chef du bénéficiaire.
C'est intéressant ça, je m'y arrête deux secondes. L'idée serait donc de ne plus taxer les bénéfices de la société tant qu'ils sont dans la société, mais plutôt au moment où certains retirent des gains de cette société, soit en touchant des dividendes, soit en revendant tout ou partie de la société avec une plus-value, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il faudrait prélever l'impôt, disent nos trois experts. Séduisant sur papier, sauf que...
On s'est bien rendu compte que c'était complètement irréalisable, et donc on va garder notre impôt des sociétés, avec effectivement une question qu'on se posait au niveau international, à quand une véritable harmonisation, parce que là aussi c'est un monde de niche, et c'est un monde de concurrence de niche, avec l'Europe qui paradoxalement se plaint de l'utilisation des niches, tout en les créant. Donc ça c'est effectivement le point sur lequel on était d'accord aussi, une harmonisation si on veut arrêter une concurrence malsaine.
Ça, c'est un enjeu bien documenté aujourd'hui. La concurrence que se livrent les États, même à l'intérieur de l'Union européenne, pour attirer des sociétés chez eux en offrant des cieux fiscaux plus accommodants que les voisins. Ça amène une course vers le bas qui finit par pénaliser les recettes fiscales de l'ensemble des États. Et ça, précise Philippe de Feit, ce n'est pas qu'une question de taux d'imposition.
Si vous avez même un taux de 30% à l'impôt des sociétés, mais que vous êtes dans un pays où vous pouvez avoir 36 niches pour réduire votre profit, ça ne sert à rien. Je dis toujours, arrêtons de nous arrêter, c'est le cas de le dire, à des symboles. Moi, je préférerais de loin un impôt de 10%, mais où la base taxable est très large, qu'un impôt de 25% avec une base taxable dans laquelle il y a plein de trous.
On résume donc l'idée. Faute de mieux, il faut garder l'impôt des sociétés. Pas de proposition concrète de nos experts pour le taux, proprement dit, mais l'idée par contre de supprimer toutes les niches fiscales qui permettent de réduire la base imposable, avoir un vrai travail à l'échelle de l'Union européenne pour une harmonisation pour l'ensemble de l'Union, l'idée d'avoir un système équitable, cohérent et facile à comprendre, des mots qui reviennent chapitre après chapitre.
On a déjà parlé IPP, on a parlé impôt ISOC, et puis maintenant on allait aller vers la consommation et l'environnement.
Reste un point encore auquel tenait beaucoup Étienne de Calataille. L'idée de développer une fiscalité environnementale.
Sur la taxation au CO2, la grande question que l'on va se poser en tant qu'économiste, c'est comment est-ce qu'on ristourne.
Nos trois experts s'entendent sur l'idée d'une taxe carbone visant à dissuader la consommation et les comportements polluants, une taxe qui pourrait concrètement fonctionner comme ceci.
Deux dimensions principales. La première, ce qui nous vient de l'étranger et qui provient en ayant bénéficié de réglementations environnementales complaisantes, que ce soit sous plan réglementaire ou sous plan de la fiscalité, devrait donner lieu à une fiscalité d'ajustement, ce qu'on appelle une taxe d'ajustement à la frontière, pour que nous n'incitions pas les productions polluantes de chez nous à se faire produire à l'étranger et que nous, simplement, nous les importerions, nous n'y aurions rien gagné, la planète n'y aurait rien gagné et le trésor public serait encore plus pauvre. Donc, première dimension. La deuxième dimension, c'est une fiscalité où toute forme de pollution est taxée sous une grille proportionnelle, et plus vous polluez, plus ça génère de l'impôt, et ça va dans un pot global, et ce pot global est redistribué sur l'ensemble des citoyens du territoire. J'aimerais aussi l'idée qu'une partie de ce pot puisse aller vers des politiques de soutien aux pays en développement, style le Pakistan aujourd'hui, qui souffre de nos comportements à nous. Donc c'est une solidarité par rapport à notre histoire et à notre pollution qu'il faut avoir ici. Mais donc, nous aurions cette ristourne, ce dividende carbone qu'on peut même imaginer, et ça se pratique dans l'un ou l'autre pays, être distribué avant même qu'on ait collecté l'impôt. Parce que beaucoup de gens vont être méfiants. L'impôt aujourd'hui, beaucoup s'en méfient. On va donc avoir l'idée qu'on va, le 1er janvier, avoir une estimation de ce que la taxe carbone rapportera dans l'année qui vient. Eh bien, le 1er janvier, tout le monde reçoit cet argent sur son compte en banque. Et puis, en fonction de ce que nous consommons, eh bien, ce que nous faisons et qui pollue nous coûtera plus cher.
Voilà encore une proposition créative. On aurait donc là une fiscalité dite incitative, puisqu'elle sert à nous motiver à changer de comportement, pas à remplir les caisses de l'État. Le but est d'en redistribuer les recettes aux citoyens. En gros, plus on a des comportements polluants, plus on paye. Et comme l'ensemble de l'argent collecté est redistribué à la population, ceux qui polluent le moins pourraient même gagner de l'argent dans l'opération et voir leur comportement vertueux récompensé. Avec cette originalité proposée aussi, que les recettes de l'impôt pourraient être prédistribuées, un peu comme si chacun avait un petit capital carbone au début de l'année et qu'il verrait alors à partir de quand il passe dans le rouge, à partir de quand sa pollution, directe ou indirecte, va le pénaliser fiscalement. Une solution qu'il faudrait creuser, évaluer en termes de justice sociale aussi, une mesure dont il faudrait aussi vérifier la faisabilité, mais promis, on fera un jour un épisode du Tournant 100% sur l'enjeu d'une fiscalité carbone. J'ai envie, avant d'en terminer pour ce podcast, d'en résumer quelques grandes lignes. Nos trois experts insistent énormément sur le sens. Repartir de ce que l'on veut faire avec la fiscalité pour pouvoir du coup mieux l'expliquer, la communiquer aux citoyens, regagner la confiance pour redonner de la légitimité à l'impôt. Ils insistent aussi pour plus d'équité. Vérifier que deux personnes qui gagnent la même chose payent la même chose en termes d'impôt ou bénéficient des mêmes avantages. Avec une attention particulière dans la protection de ceux qui gagnent le moins et que l'on peut aider soit en revoyant les barèmes, mais aussi en s'assurant qu'ils bénéficient effectivement de tous les avantages fiscaux auxquels ils ont droit. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Nos trois experts parlent aussi d'harmonie et de cohérence. Supprimer les très nombreuses niches fiscales qui font qu'au départ d'un taux d'imposition affiché, la multiplicité des échappatoires possibles complexifie les choses et favorise ceux qui peuvent se permettre de faire de l'ingénierie fiscale, rarement d'ailleurs ceux qui en ont le plus besoin. Et puis, que ce soit sur l'impôt des sociétés, la fiscalité environnementale, nos experts en appellent à des solutions et des harmonisations qui dépassent le seul cadre belge en jouant au moins au niveau européen. Un bien vaste chantier, n'est-ce pas, Philippe de Feit?
Ce qu'on propose, c'est une réforme profonde, hein, radicale de ce qui existe. Si on pouvait commencer par ça, ça serait déjà très bien.
Allez, il n'y a plus qu'à.